Le rendez-vous annuel des passionnés de littérature, le festival Étonnant Voyageur, se déroule ce week-end à Saint-Malo. Mélanie Lebris est avec nous pour en parler.
Bonjour Mélanie Lebris.
Bonjour.
Alors vous êtes co-directrice du festival Étonnant Voyageur, qui est un festival dont vous avez peut-être déjà entendu parler, auditeur auditrice. C'est un festival en fait du livre et du film qui s'ouvre ce samedi 4 juin à Saint-Malo et qui va durer jusque lundi 6 juin. Donc un festival sur 3 jours, un événement phare qui rassemble des auteurs et des autrices du monde entier et qui attire chaque année de nombreux festivaliers, du passionné de littérature au simple curieux. 200 auteurs du monde entier en moyenne chaque année, 300 rencontres, débats, lectures, mais aussi 80 films et documentaires et 10 expositions. C'est un festival pluridisciplinaire, si on peut dire, à la fois donc, de littérature, de cinéma et d'art de manière plus large, ancré quand même autour d'une notion principale, le voyage, l'imaginaire. C'est la 32e édition de ce festival, qui existe donc depuis déjà 1990. Comment l'identité du festival a un peu évolué depuis tout ce temps? Quelles ont été les grandes améliorations qui nous mènent jusqu'à cette édition de 2022?
Ah, c'est une longue histoire, ce festival qui a été créé en 1990 par Michel Lebris, donc qui est écrivain, qui est mon papa aussi, je dois dire, qui nous a quittés l'année dernière. C'était vraiment né avec l'idée de créer un espace qui serait un espace de respiration pour toute une bande d'écrivains un peu en marge des modes littéraires parisiennes et qui voilà, se retrouvaient à Saint-Malo, les petits enfants de Jack London, de Stevenson. C'était un peu cette culture-là autour de la littérature de voyage, d'aventure et tout ça. Puis il y a toute une famille comme ça qui s'est constituée d'auteurs au fil des années. Puis le festival a grandi chaque année. Donc cette année, ben, c'est les grandes retrouvailles, j'espère, avec notre public. On avait eu la belle surprise lors de la dernière édition numérique, ben, de découvrir qu'il y avait 55 000 personnes qui nous avaient suivis en ligne. On ne s'attendait pas à ça et ça nous a fait chaud au cœur. On s'est dit, bon, là, cette année, de retrouver un vrai public, parce que c'est vraiment des moments de partage, des moments d'être ensemble qui sont très importants sur ce festival. Donc, je me réjouis là de retrouver tout le monde en vrai.
Surtout, j'imagine qu'il y a quand même, vous le disiez, 55 000, c'est beaucoup. J'imagine qu'il y a aussi des gens qui sont fidèles au festival, qui reviennent tous les ans ou qui...
Voilà, oui, bah oui, il y a des gens même que je croise et que je les connais. Et donc je leur dis bonjour. Et en fait, c'est des festivaliers qui viennent d'année en année. Puis après, on rencontre les enfants des festivaliers qui grandissent aussi, puis les enfants des enfants. Donc ça a l'air de se transmettre de génération en génération. Donc ça, c'est une belle chose.
Oui, un festival qui est très ancré, on l'a dit. Un des plus grands carrefours littéraires aussi de notre pays, où des œuvres francophones mais aussi étrangères se côtoient, s'opposent parfois et se complètent. Tout ça donc à Saint-Malo. En quoi cette ville de Saint-Malo, ça se prête aussi bien à cette dimension très internationale du festival ?
Ben, Saint-Malo est un port, donc un port ouvert vers l'ailleurs, vers l'inconnu, vers le Nouveau Monde, vers le Québec. Enfin, toute l'histoire de Saint-Malo appelait finalement le festival. Et c'est vrai que quand le maire de Saint-Malo à l'époque, René Coineau, a rencontré Michel, tout d'un coup, cette idée d'un festival ouvert sur le monde, avec le voyage au cœur du festival, ça semblait tellement approprié à l'histoire de Saint-Malo. Mmh.
Un festival, donc on l'a dit, beaucoup centré autour de la littérature, mais pas que. En tout cas, suite aux différents confinements, beaucoup de gens ont pu renouer avec la littérature. C'est quelque chose qu'on a pu observer. Est-ce qu'on peut dire que le livre, c'est l'objet livre, c'est un réconfort quand en dehors tout va mal? Est-ce qu'il peut être pensé comme un moyen d'échapper un peu à la réalité ou au contraire de s'ouvrir au monde? Comment vous le voyez-vous?
Bah, je le vois un peu comme les deux. Là, la thématique centrale de cette année, c'était l'idée du réenchantement du monde et du pouvoir de la littérature. Et alors, évidemment, que peut la littérature? On se dit, bon, pas grand-chose, mais je pense quand même qu'elle a vraiment un rôle à jouer parce qu'elle nous ouvre vers l'ailleurs. À travers la littérature, c'est la rencontre avec l'autre. C'est vraiment... elle peut pas changer le monde comme ça, mais elle peut changer des choses en nous. Et ça, je pense réellement que c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai, quand on discute avec les auteurs, pour eux, il y a cette importance de qu'est-ce qui reste quand tout s'effondre, il reste les mots. Et voilà, ce moment-là, 3 jours de rencontre avec tous ces écrivains venus de tellement d'horizons différents, c'est aussi l'occasion de faire un espèce de pas de côté, de regarder un peu le monde sous un autre angle. C'est se laisser porter par notre imaginaire. Et je pense que, voilà, on est dans un contexte qui est lourd en ce moment, avec la question de la guerre aux portes de l'Europe, avec la question du Covid. Je pense réellement que l'imaginaire, il ne faut pas qu'on perde le lien. On est dans une société, je trouve qu'il manque un peu de... C'est comme si on avait un peu coupé un lien avec une certaine spiritualité, quelque part. Et je trouve que la littérature, l'ouverture vers l'imaginaire, ça nous aide à penser un peu plus grand, je trouve. Voilà. C'est ça qu'on essaie de mettre en avant. C'est ce que Michel Lebris répétait à longueur de festival. Et là, on s'inscrit vraiment dans le prolongement, en fait, de sa pensée sur le pouvoir de l'imagination, le pouvoir du poème, le pouvoir du théâtre, cette année aussi. Ce sera un peu une nouveauté, on va commencer à s'intéresser au théâtre. Donc voilà, 3 jours très variés pour tout public, aussi bien les petits que les grands, des débats pointus, mais des débats aussi
plus accessibles.
Voilà, j'espère que ce sera une belle fête de la littérature.
Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. En cette année 2022, Andrei Kourkov, donc écrivain ukrainien, sera votre invité d'honneur pour cette édition. Pourquoi ce choix ? J'imagine que ça a un lien, bien sûr, avec le contexte actuel de guerre dont on parlait à l'instant aux portes de l'Europe.
Eh bien, curieusement, en fait, cette année, ça a été le premier invité à répondre oui. Bien avant la question de la guerre en Ukraine, c'est un auteur qu'on aime beaucoup, qui est venu plusieurs années successives à Saint-Malo. On suit vraiment son travail et c'est vrai que moi j'aime cet imaginaire qu'il y a dans ses livres, quelle que soit la thématique, c'est toujours l'humain qui gagne, c'est toujours la lumière, percevoir la lumière au milieu des ténèbres et ce livre, c'est assez étonnant parce que même l'éditrice n'avait pas prévu que la guerre arriverait à ce moment-là. Pourtant, c'est un livre qui est plus ancien, qu'il a écrit il y a 4-5 ans.
Et est-ce qu'on peut rappeler le nom du livre ?
Les abeilles grises. Et voilà, et donc c'était une drôle de coïncidence. Et donc, c'est vrai qu'on a imaginé un peu le festival autour de lui aussi. Et il nous rejoindra dès le samedi matin et il sera là pendant 3 jours. Pas que pour parler de la guerre, mais pour parler aussi de littérature. Et voilà, il est très engagé. Là, il se pose vraiment en témoin des événements, de ce qui se passe.
Alors, le festival Étonnant Voyageur s'organise autour de grands thèmes. Parmi eux, donc, il y en a un qui est le pouvoir de la littérature. On retrouve notamment une rencontre ce dimanche à 17h30 qui s'appelle « Femmes libres et puissantes » avec Audrey Willimi et Émilie Prophète. Ce qui est assez symbolique d'avoir un événement justement autour des femmes et de l'écriture, puisque historiquement, leur rôle à prendre dans la littérature a été beaucoup contesté. Je pense notamment projet de loi de Sylvain Maréchal début 19e dans lequel on peut retrouver des mots tels que « la raison veut que les femmes ne mettent jamais le nez dans un livre, jamais la main à la plume ». Bon, bien sûr c'était au 19e siècle, heureusement depuis ça a évolué et de nombreuses femmes écrivent. Comment la littérature justement ça a pu participer selon vous à cette émancipation ?
Je trouvais vraiment que cette année, là il y avait des voix féminines vraiment très très fortes. Audrey Villelmi, Emily Prophète, Nancy Houston qui est présente aussi, mais pas que, Jeanne Benhamer. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité ce débat-là, dans lequel on a quand même inclus un homme.
J'ai
qui,
vu ça.
Ouais, Simon Abkarian. Qui est l'auteur d'une pièce magnifique, Électre des bas-fonds, et qui avait aussi pour souci, là, de mettre en avant la parole des femmes. Alors, c'est une pièce où il y a une douzaine de femmes pour deux hommes. Et c'est une pièce absolument magnifique avec un monologue de Clytemnestre absolument sublime qui met en avant cette puissance des femmes. C'est marrant, je regardais au niveau des auteurs québécoises cette année, c'était pas le choix d'avoir des écrivaines, des autrices québécoises. C'est juste que ça s'est imposé parce que c'était des voix fortes et puissantes. Donc il y a Hélène Dorion, Claudine Bertrand, Audrey Villelmy. Voilà, c'est quand les voix sont fortes et puissantes, on les entend.
Et il y a de nombreuses autres questions qui sont abordées. On parlait tout de suite du thème femme libre et puissante. Il y a aussi beaucoup d'autres questions contemporaines, notamment la venue de Michel Agier, qui est ethnologue et anthropologue et qui travaille notamment sur la question des migrants et des réfugiés. Pourquoi c'est important aussi, dans ce festival, de mettre en lumière des faits d'actualité ou en tout cas des problématiques qui nous touchent toutes et tous à l'heure actuelle ?
Je pense que c'est important d'être en lien avec le monde en mouvement, tout simplement. Et on s'aperçoit que souvent, d'ailleurs, les écrivains, les artistes sont les premiers à le dire, ce monde en mouvement. Et je trouve intéressant aussi de croiser à la fois des paroles de spécialistes, comme Michel Agier, qui n'est pas un romancier, mais qui a un regard et qui a une ouverture d'esprit qui fait qu'il va rentrer. C'est ça qui est intéressant dans le festival, c'est de faire entrer en dialogue un ethnologue avec un romancier, avec un poète, et chacun a sa portée mutuellement. Et souvent, sur ces rencontres, ça donne des choses assez, assez surprenantes. On aime bien aussi les philosophes qui sont un petit peu en marge aussi. Par exemple, là, il y a Dénéten Twambona, qui a fait un ouvrage assez étonnant qui s'appelle « La sagesse des lianes » et qui part de la figure de la liane dans la jungle comme symbole en fait, de toute l'histoire en fait, du marronnage. Mais du coup, il développe une espèce de philosophie qui est une philosophie presque de vie au quotidien, et je trouvais ça assez fantastique. Donc... Et d'ailleurs, en discutant avec lui, c'était marrant parce qu'il me disait « Moi, je suis un peu seule dans mon domaine, finalement, parce que du côté de la philo, on me regarde un peu bizarrement et tout. » Et puis finalement, il se retrouve à beaucoup collaborer avec des artistes. Donc voilà, moi, le festival, on est un peu des passeurs, en fait. C'est, quand on conçoit la programmation, c'est beaucoup de l'ordre de l'intuition, en essayant de créer des ponts entre des imaginaires et entre différentes visions. Et des fois, ça donne des choses très belles. Donc j'espère que ce sera le cas ce week-end.
On parlait d'imaginaire. C'est vrai que imaginaire, ça fait beaucoup écho à l'enfance. Vous avez conçu dans ce festival aussi tout un programme pour la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Quelle était l'idée et qu'est-ce qu'on pourra retrouver pour les enfants ?
Alors pour les enfants, il y a plein d'ateliers pendant les deux jours du festival par les illustrateurs en fait, qui sont la plupart exposés à la Chapelle Saint-Sauveur, dans lequel il y a deux grandes expositions collectives d'auteurs de BD et d'auteurs illustrateurs jeunesse. Je pense que la forme de l'atelier pour les petits est vraiment... une forme
ludique
et pour rentrer dans l'objet livre, avec aussi des temps de lecture aussi des livres du festival. Après, on a une salle aussi cette année dans le Palais du Grand Large qui sera consacrée à la programmation jeunesse en tant que telle, avec des discussions, avec des spectacles de contes. Je pense que ça va être assez varié. Puis il y a la Maison de l'Imaginaire qui est aussi... pour les ados et puis les grands-enfants aussi. Donc voilà, j'espère que ce sera joyeux.
Il y a aussi tout un angle, bien sûr, porté sur le cinéma, avec de nombreux films qui seront projetés sur ces trois jours. Je pense notamment à Akeji, le souffle de la montagne, de Mélanie Chan, qui était venue d'ailleurs nous en parler ici à SILAB. Comment justement la présence du 7e art, ça vient un peu enrichir ce festival et comment la littérature et le cinéma se font un peu écho aussi ?
Le cinéma a toujours été présent dans le festival depuis les débuts. Au début, plus à travers de la fiction. Et c'est vrai que depuis quelques années, on s'est attaché à l'écriture documentaire avec l'envie vraiment de le traiter comme une forme d'écriture en tant que telle et justement de faire entrer en dialogue des réalisateurs avec des écrivains qui partagent un même souci de dire le monde, en fait. Et cette année, on a un petit peu resserré au niveau du nombre de films projetés parce qu'on voulait justement se recentrer sur les réalisateurs invités et plutôt se dire, tiens, on va prendre le temps de découvrir le cinéma documentaire de Denis Gerbrand, le cinéma documentaire de Régis Soder ou d'Alice Diop. Il y aura 3 salles à la médiathèque chaque soir, enfin le samedi soir et le dimanche soir, avec comme ça une programmation en soirée de plusieurs des œuvres des auteurs avec des débats aussi.
Est-ce que vous avez des événements coup de cœur ou voilà sur lesquels vous souhaiteriez insister?
Alors c'est toujours la question piège parce que c'est vrai que le festival c'est un immense puzzle, donc suivant les goûts de chacun. S'il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est la présence du vivant, la question du vivant. On a tout un pan de programmation là qu'on a développé autour de cette idée de se réapproprier le vivant. Il y a Francis Allais qui sera présent, qui est un botaniste absolument fantastique qu'on écouterait parler pendant des heures. Et c'était assez curieux parce que cette année, plus je feuilletais un peu les romans de l'année pour voir un peu les tendances, plus je m'apercevais que justement cette question du vivant, de la problématique du réchauffement climatique, intégrait vraiment pleinement le roman, en fait. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant là, de développer toute une thématique comme ça dans une des salles autour de cette question du rapport au vivant, qui, je pense, est essentielle aussi dans notre période actuelle.
Bien sûr. Si on veut en savoir plus, toutes les informations sont à retrouver sur votre site internet.
Tout à fait.
Étonnant Voyageur, il y a toute la programmation détaillée jour par jour et thème par thème également. Merci beaucoup, Mélanie Lebris, d'être venue nous parler de ce festival au micro de Syllab.
Merci à vous.
Et puis, on vous rappelle que c'est du 4 au 6 juin à Saint-Malo, festival Étonnant Voyageur, pour parler littérature et cinéma et créer des ponts entre tout ça. Merci.
Merci à vous.